Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 8 jusqu'au verset 12. Il est dit là, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. » Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destiné, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Oui, les anges désirent connaître. Mais même pour les anges, créatures célestes, pour les anges, créatures éternelles, les œuvres de Dieu sont bien souvent incompréhensibles. Lorsque ces œuvres sont manifestées et qu'elles se voient, désormais alors, on comprend. Et après avoir compris, on est émerveillé et on s'étonne et on adore. Sagesse immense, connaissance merveilleuse, puissance sans limite, amour incommensurable qui remplit l'univers. Être créé, que tu sois ange ou que tu sois homme, tu es trop limité pour sonder les profondeurs de Dieu, l'immensité de son amour, la grandeur de ses projets et de ses plans. Tu es trop petit, quoique ange en gloire et éternel, mais créé. Car tu n'es pas égal au Créateur. Quand on parle des œuvres de Dieu, on parle de quelque chose duquel on n'est pas habilité à parler. Quand on parle des mystères du plan de Dieu, on parle de choses dont les dimensions nous échappent. Et qui suis-je, moi, ici, pour parler des choses éternelles? Pourquoi, ô Dieu, m'as-tu demander de proclamer ce message? Je suis loin de pouvoir le saisir et tout ce que je puis dire n'est qu'un balbutiement vis-à-vis de la réalité. Tout ce que je puis annoncer n'est qu'un petit aperçu de ce qui est en réalité, car mon intelligence et ma compréhension sont trop limitées pour saisir la grandeur des plans de Dieu, de l'amour de Dieu envers les hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Personne n'est trop mauvais pour ne pouvoir être sauvé. Personne n'est trop vil et sale et souillé pour ne pouvoir être purifié et lavé. Comment puis-je comprendre de telles choses? Je les annonce, mais je ne les saisis point et je ne les comprends point. Mais je crois, car j'ai expérimenté l'amour de ce Dieu merveilleux. Je l'ai expérimenté. Certes, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui. Et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. Oui, mes yeux de la chair ne l'ont point vu et ne l'ont point contemplé. Mais je l'aime. Je ne l'ai pas vu. Mais je crois. Je crois en lui. Et à cause de l'œuvre miraculeuse qu'il accomplit en mon cœur, par sa grâce et sa puissance, je tressaille d'allégresse. Je chante, je le bénis, je le loue, je le proclame. Car je voudrais que vous aussi, vous le voyez comme je l'ai vu. Non pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Je le contemple déjà. Bientôt le jour vient où enfin, avec mes propres yeux, je le verrai, je le contemplerai. Avec ma propre bouche, je le proclamerai. Je le chanterai tellement mieux qu'aujourd'hui. Alléluia. Tellement mieux qu'aujourd'hui. Et quelle voix j'aurai. Et je pourrai jouer de tous les instruments. Et il n'y aura pas que ceux-ci qui chanteront alors. Souvent, vous me voyez chanter lorsqu'il y a les cantiques, mais bien souvent, il n'y a presque pas de voix qui sort de ma bouche. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose, il n'y a rien qui gaspille autant la voix que la prédication. Il n'y a rien qui gaspille autant la voix. Et un chanteur, c'est rare qu'il puisse rester à chanter toute sa vie s'il est aussi prédicateur. J'entends s'il prêche avec conviction, forcément. Si vous prêchez bien gentiment comme cela, alors ça fait différent, évidemment. Mais quand il y a un feu qui brûle dans le cœur, il faut le proclamer, le crier. Et je voudrais avoir encore plus d'amplificateurs pour que ça couvre la ville. Frères et sœurs, le jour viendra où moi aussi je chanterai. Où moi aussi je chanterai. Et je pourrai jouer de la trompette. Et de quelle trompette? Ce n'est pas ces instruments de cuivre là. C'est autre chose encore. Le jour vient, oui, et ça c'est le message de Noël. C'est le message de Noël. Le jour vient. Voilà le modernisme. Il y a un petit capuchon qui est sorti, on va le trouver. Frères et sœurs, nous devons le proclamer. Nous devons le chanter. Nous devons l'aimer. Oui, c'est vrai, nous ne l'avons jamais vu. Nous ne l'avons jamais vu. Mais le jour vient où nous le contemplerons dans sa gloire. Et nous le verrons tel qu'il est dans sa gloire, merveilleux Sauveur, en remportant pour prix de votre salut, de votre foi, pardon, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Voilà, prix de votre foi, le salut de nos âmes. La foi a un prix. Et quel est ce prix? Le salut. Autrement dit, à cause de la foi, il nous paye. Eh oui, la foi a un prix. Parce que nous croyons, alors il nous donne quoi? Le salut. Le salut éternel. Et c'est ça, le message qui sort de Bethléem. Les œuvres de Dieu. Même les anges s'étonnent. Même les prophètes dans le passé n'ont pas compris ce qu'ils ont prophétisé. Ils étaient là comme quelqu'un qui regarde une chaîne de montagnes dans le lointain. Ils voient la forme de la montagne, une forme générale. Et ils peuvent dire, c'est beau, c'est magnifique. Mais le détail, on ne le voit pas. C'est trop loin. C'est éloigné là-bas, de l'autre côté. Mais ces montagnes ont l'air trop abruptes. Ces montagnes ont l'air trop dangereuses. Ces rochers ont l'air trop escarpés. Un homme peut-il monter si haut? Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Mais ces temps ne sont pas pour toi. Ils ont vu de loin ce qui nous était destiné. C'est ce que dit l'apôtre. Ce qui nous était destiné. Pourquoi sommes-nous si privilégiés? Pourquoi? Beaucoup auraient voulu avoir et posséder ce que nous possédons. Avoir les connaissances que nous avons, les œuvres de Dieu, leur grandeur, leur raison d'être, le but poursuivi par Dieu. Leur manifestation de ces œuvres, le résultat qui s'ensuit, sont tellement extraordinaires qu'on est dans l'étonnement et dans l'émerveillement. Car même les anges n'ont pu comprendre le plan de Dieu. Déjà, tout au début de l'humanité, avec le premier couple, la promesse a été donnée. La semence de la femme t'écrasera la tête. Il n'a pas dit ça 10 générations, 20 générations, 100 générations après. Non, la première. Ceux qui n'étaient jamais venus dans le monde, bébés. Seuls Adam et Ève sont venus dans le monde, adultes. Et déjà, à eux, la promesse a été faite. De la semence de la femme sortira celui qui écrasera la tête du serpent. Est-ce que les anges ont compris lorsqu'il a parlé ainsi? J'en suis sûr que non. Qui a compris? Et combien de générations n'a-t-il pas fallu pour que les hommes comprennent? Ils n'ont même pas compris toutes les œuvres et tous les sacrifices qu'ils devaient offrir, le pourquoi de la rigueur de ces sacrifices, de la rigueur du culte. Nous appelons ça une tradition, nous appelons ça des rites, mais c'était bien plus que cela. C'était le symbole de ce qui allait venir. C'était dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu pour l'humanité. Il y avait une dimension qu'eux-mêmes n'ont pas compris, mais Dieu voulait une rigueur, car cela représentait des points définis de son plan pour le salut de l'humanité. Et ils ont vu de loin quelque chose de spécial, quelque chose qui était annoncé par les prophètes, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils ont prophétisé. Le plan de Dieu était si merveilleux. Nous nous regardons avec le recul et nous comprenons sans comprendre. Mais nous avons plus de lumière, tandis qu'eux essayaient de regarder dans le futur. Et le futur était très brumeux et très lointain. Les prophètes qui ont parlé au nom du Dieu vivant n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris tout ce qu'ils ont dit. Ils ont comme regardé de loin des choses qu'ils n'apercevaient que vaguement et imparfaitement, mais qu'ils ont transcrites fidèlement sous l'inspiration du Saint-Esprit pour nous qui en avons bénéficié. Ils désiraient, nous dit Pierre, sonder l'époque, sonder les circonstances. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous que ces choses étaient annoncées, dans lesquelles les anges même désiraient plonger le regard. C'est-à-dire, les anges même désiraient comprendre. Ils n'ont pas compris. Est-ce que nous comprenons? Aujourd'hui, bien sûr, dans la gloire, tous les anges qui ont suivi pas à pas la marche en avant de la révélation, ont compris. Et c'est pour cela qu'il y a des chants, des louanges dans les parvis éternels auxquels bientôt nous allons nous joindre. Mais Dieu n'était pas forcé de continuer son plan. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils pouvaient tout arrêter, ils pouvaient tout détruire, ils pouvaient tout recommencer, ils pouvaient modeler un homme et une femme avec une différence en eux qui fasse que ce soit des êtres qui choisissent pour lui. N'est-il pas le Dieu puissant sans limite? Il aurait pu faire tout cela et recommencer sa création, mais il ne l'a pas fait. Comprendre cela, qui le comprend? Les anges eux-mêmes s'étonnent. Quant à moi, qui ne suis pas encore un ange, mais qui le deviendra un jour, alléluia. Quant à moi, qui suis encore dans cette masse d'argile organisée d'une façon merveilleuse, mais qui n'est que poussière, à plus forte raison, je m'étonne Et je me dis, Seigneur, comment ne nous as-tu pas écrasés depuis longtemps? Quand on voit la dureté du cœur de l'homme, la méchanceté des gens aujourd'hui, comment ils s'haïssent les uns les autres, se détruisent les uns les autres, entre tribus, entre races, entre couleurs, entre niveaux sociaux. Comment, ô Dieu, peux-tu supporter cela? Tu nous aimes. Tu nous aimes. Mais pourquoi? Pourquoi? Quel est le but que tu recherches dans tout cela? Les prophètes, ils ont parlé. Ils étaient saisis par l'esprit. Mais ils n'ont pas compris. Les anges eux-mêmes, le Messie, à travers toute sa vie, a été assisté par des anges. Ces anges, ils se sont manifestés avant sa naissance. De toute éternité, les anges créés par Dieu, pour le servir, regardent et cherchent à comprendre et à percer le mystère du plan de Dieu. Ils ne connaissent pas et ne peuvent sonder les plans de Dieu, mais avec étonnement, ils contemplent ses œuvres et ils adorent. L'un d'eux fut envoyé à une vierge en Israël pour lui annoncer la venue du Sauveur. Et il lui dit, selon Luc au chapitre 30 et au chapitre 1er au verset 30, il lui dit ceci, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Oh, j'aime l'introduction de cet ange. Cet ange arrive là. Il se présente à cette jeune fille qui est vierge et il lui dit « Ne crains point !» Voir un ange subitement devant soi comme cela, quelle est la réaction naturelle? N'est-ce pas vrai? Supposez qu'un ange descende subitement en ce dimanche matin au milieu de la foule et qu'il soit perçu par nous tous. N'y aurait-il pas une réaction de notre part à chacun? Oh certes, nous ne serions pas indifférents, ni les uns ni les autres. Je pense qu'il y aurait, la réaction que nous aurions serait en proportion de notre expérience spirituelle avec Dieu. Je suis sûr que beaucoup fuiraient en criant. Ils se verraient tellement impurs, ils ne pourraient subsister là devant cet ange. Il y en a d'autres, au contraire, qui tomberaient sur leur face. Ils ne tomberaient pas sur le dos comme ça avec des attrapeurs derrière. Mais ils tomberaient sur leur face comme Daniel lorsque l'ange lui est apparu. Et d'autres dans la Bible, comme morts, sans force. Ne crains point. J'aime cela. Nous avons besoin de ce message, n'est-ce pas? Il y a tant de peur, tant de crainte dans le monde aujourd'hui. Les hommes vivent dans la peur. La peur est venue dans le monde à cause du péché. Elle était là pour la première fois, exprimée dans le jardin d'Éden. Dieu venait tous les soirs pour avoir communion avec l'homme. Mais l'homme avait désobéi à Dieu. Alors, dès qu'il a désobéi à Dieu, ses yeux se sont ouverts. Et quelque chose a manqué dès cet instant-là. Quelque chose a changé dans sa nature et dans son comportement et dans son entourage. Il s'est vu nu, c'est tout. C'est ce que la Bible nous dit. Ceci veut dire qu'avant, il n'était pas né. Il a perdu quelque chose. Il a perdu la gloire de Dieu. Il a perdu quelque chose de spirituel qui l'entourait, qui était là avec lui, autour de lui. Il a perdu quelque chose. Et alors, il a eu peur. Il est allé se cacher. Et le soir, Dieu est venu dans le jardin et il a appelé Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Mais Adam n'a pas répondu tout de suite. Ce n'est pas que Dieu ne savait pas où était Adam. Dieu sait tout. Mais il voulait qu'Adam réponde à son appel. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu appelle. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Jean, où es-tu? Pierre, où es-tu? Mounongo, où es-tu? Dieu appelle chacun par son nom. Il attend que nous répondions. Et si nous ne répondons pas, eh bien nous restons là où nous sommes. Et là où nous sommes, c'est un lieu de malheur. Vous m'entendez? Qu'attendez-vous pour répondre à Dieu? Là où nous sommes, c'est un lieu de corruption, de malheur, de tristesse, de larmes, de souffrance, d'oppression. Voilà où nous sommes. Nous essayons de nous cacher, de cacher la honte de notre nullité avec notre propre justice, nos propres vêtements fabriqués par notre par nous-mêmes, selon ce que nous pensons, notre religion. Non, il faut la robe trempée dans le sang. Seule celle-là peut nous couvrir. Timidement, Adam a répondu, oh merci Seigneur de ce qu'il a répondu. Moi, je crois que Adam est sauvé. Je le crois. En tout cas, ce jour-là, je veux le voir. J'ai quelque chose à lui dire. Il a répondu. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu quand Dieu lui a posé « Pourquoi te caches-tu ?» Il a répondu à Dieu « J'ai eu peur. » Voilà ce qu'il a dit. Pourquoi ? Parce qu'il avait transgressé. Et depuis ce jour-là, la peur est dans le monde à cause du péché. On a peur de tout. On a peur de l'avenir. On a peur de vivre. On a peur de mourir. On a peur des sorciers. On a peur des fétiches. On a peur du lendemain. On a peur des ténèbres. On a peur de la guerre, on a peur du sida, on a peur de la maladie, on a peur les uns des autres, on a peur, peur, nous sommes traqués par la peur. N'est-ce pas vrai? Mais l'ange de Bethléem, que dit-il? Ne craignez point. Il est réconfortant de dire, de voir le nombre de fois dans la Bible où il est dit, ne craignez point, car Dieu sait que là est le point névralgique de l'homme. L'homme vit dans la peur. Ne crains point, Marie, car tu auras trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Et son règne n'aura pas de fin. J'en ai marre, Seigneur, de ces règnes des hommes qui changent tous les combien de temps. Et personne n'a la solution. Il n'y a que toi. Et les hommes veulent régner par la peur. Les hommes veulent régner avec l'arme au poing. Les hommes veulent régner en imposant. Seigneur, Seigneur, Seigneur. J'ai mon cœur blessé au-dedans de moi. Chaque fois que je vois ces hommes armés, avec ces armes sophistiquées, ces armes ne sont pas faites pour tuer des animaux. Elles sont faites pour tuer des genres humains. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Et ça me fait mal. Jusqu'à quand, Seigneur, serons-nous tenus par la peur? La peur de la mort. Mais celui-même qui tient la mort dans ses mains en a peur. C'est pas vrai? Jusqu'à quand serons-nous dans un monde traqué de la sorte? C'est pour cela que j'aimerais affirmer et prêcher encore sur le message de Noël de Bethléem qui est « Ne craignez point ». À la naissance du Sauveur, un ange du Seigneur apparut aux bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs et nous l'avons vu tout à l'heure. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et qu'est-il dit? Ils furent saisis d'une grande peur. Oui, c'est normal. Normal dans le temps présent. Mais dans le temps à venir, nous n'aurons plus de peur. Frères et sœurs, la peur. Si je demandais ici, qui n'a jamais connu la peur? Qu'il lève la main. Est-ce qu'il y en aura qui vont lever la main? Et même s'il y en a un qui lève la main, je lui dirais, tu es un menteur. Parce que le courage, ce n'est pas de connaître la peur. Le courage, c'est de surmonter la peur. L'homme courageux, c'est un homme qui tremble. Vous m'entendez? Parce que nous tous, nous sommes faits de la même matière. Nous tous, nous connaissons la peur. L'ange leur dit, il fut saisir d'une grande peur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Christ, le Messie, le Sauveur. Il est venu pour sauver. Il est venu pour enlever la malédiction. Il est venu pour enlever la peur. La peur vient du péché. Il enlève le péché, il enlève la peur. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne crains même plus la mort. Parce que tu sais que pour toi, mourir, ça devait être formidable. Oh, j'aurais voulu être là. Mais le jour vient où je serai là aussi. Plus tard, un ange du Seigneur apparut à Joseph et lui dit, Matthieu 2,13, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. » Voilà, Hérode, l'usurpateur, qu'il veut garder son poste. Il sait que le roi qui est attendu va venir. Et il a la prétention de vouloir l'exterminer parce que lui, il veut garder le pouvoir. Alors que lui, Combien d'années il lui reste encore? À peine quelques années. Tandis que l'autre qui vient va régner éternellement. Crois-tu pouvoir changer le plan de Dieu? Crois-tu? Non, tu ne peux pas. Qui que tu sois, grand chef, petit chef, ouvrier, esclave, aucun ne peut changer le plan de Dieu. Que tu sois blanc ou noir, que tu sois physicien, sauf avec des connaissances immenses qui peuvent fabriquer toutes sortes de choses, tu ne peux rien changer au plan de Dieu. Dieu reste le maître. Il tient le monde dans sa main. Hérode a disparu. Mais lui, le petit enfant, il est toujours sur le trône. Après la tentation au désert, dans Matthieu 4, 11, il est dit, après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Je ne crois pas que ces anges devaient tout comprendre. En tout cas, ils devaient s'étonner. Mais enfin, pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Ils devaient s'étonner et se demander pourquoi endurer toutes ces choses, ces tentations. Plus tard, nous le voyons en agonie à Gethsémané. Après avoir parcouru les routes de la Galilée, de la Judée et de la Samarie, après avoir prêché aux autres, guéri les aveugles, fait marcher les paralytiques, après avoir chassé les démons et ressuscité les morts, le voilà en agonie à Gethsémané, rejeté, bafoué. Et il sait dans son esprit que quelque chose de terrible va venir. Et il est un homme, et il y a un combat en lui, un combat terrible. Même son corps humain, son corps d'homme ne peut supporter un tel combat. L'enfer est contre lui. Alors un ange lui apparut, est-il dit, pour le fortifier. Quand Christ mourut sur la croix, tous les anges attendaient dans l'expectative, prêts à intervenir pour écraser les hommes aveugles manipulés par Satan. Ils étaient là, attendant l'ordre, mais l'ordre n'est jamais venu. Pourquoi? Aucun ordre ne fut donné. Jésus disait bien, ne pensez-vous pas que mon Père peut m'envoyer 12 légions d'anges pour me délivrer? Les anges étaient là et ils le regardaient mourir. Mourir en homme, dans la faiblesse, bafoué, rejeté. Comprendre pourquoi? Qui pouvait? Il n'y a qu'une seule chose qu'il a retenue au bois de la croix. Aucun Pilate, aucun soldat romain, aucun propre juste juif n'aurait pu le retenir au bois. Aucun clou n'aurait pu le retenir au bois. Il n'y a qu'une chose qu'il a retenue au bois, son amour pour les hommes, car l'amour ne fait pas l'objet de compréhension particulière ou d'explication particulière. L'amour ne se rationalise pas. L'amour ne se comprend pas par le raisonnement et par mille explications. L'amour, le vrai, il se démontre. Aucun ange ne pouvait comprendre des explications. Une rationalisation de l'amour. Aucun ange ne pouvait comprendre une démonstration verbale. Est-ce qu'on peut démontrer le verbal? Non, le verbal doit être démontré par des actes. Et les actes se démontrent par des mouvements. C'est pas vrai? Par quelque chose. Donc, ce qu'il venait faire n'était pas démontrable par des paroles, par des raisonnements, par une rationalisation quelconque ou un raisonnement quelconque ou une explication quelconque. Il fallait une démonstration et il meurt sur le bois pour démontrer à l'univers entier comme aux anges et aux démons ce que c'est que l'amour. Et l'amour est plus fort que la mort. Oui, Noël c'est ça et c'est rien d'autre que ça. Noël, c'est l'amour qui s'est donné, l'amour qui se démontre. Les anges voudraient comprendre, Jésus s'est donné pour sauver. Un ange du Seigneur intervient encore en ce matin de la résurrection. Et il vint rouler la pierre du tombeau où on avait mis son corps d'homme. Quand Marie entra dans le tombeau, Il nous a dit, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Et il est dit, l'ange dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Vous cherchez Jésus. Il n'est point ici, il est ressuscité. Car l'amour ne peut jamais mourir. Alléluia. C'est l'essence même de la vie. Je ne parle pas de cet amour vulgarisé et détruit, chanté par les chansonniers du monde, qui ne représente rien du tout qu'une licence. Une licence à en laisser aller, qui traîne l'humanité dans la débauche et dans le malheur et dans le péché le plus horrible. Satan a voulu détruire l'amour. Non, je veux parler de l'amour dans les dimensions de Dieu. Cet amour qui est vie. Noël, c'est tout cela. Et bien plus encore, c'est aussi la venue proche du Seigneur, roi de gloire, Noël. Combien d'hommes et de femmes n'y comprennent rien? Ils entendent sans comprendre. C'est pourquoi la Bible a été donnée, car il est dans toutes les Écritures, est-il dit. C'est pour cela qu'il leur ouvrit l'intelligence, est-il dit encore. Et dans Luc 24, 27, il est dit, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il est la réalisation des prophéties. Il insistait sur tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est ainsi que Jean et Matthieu, en rapportant les événements de la vie de Christ, s'appuient constamment sur les textes bibliques. Et ils disent chaque fois, afin que l'Écriture soit accomplie, afin que l'Écriture qu'elle soit accomplie, ils veulent attirer l'attention. Oui, ces choses se sont passées, parce que les prophètes en ont parlé. Ils l'ont vu de loin, c'est vrai, mais nous le voyons de près maintenant. Afin que l'Écriture soit accomplie. Il est écrit. Lisez les Écritures, elles rendent témoignage de lui. Christ s'y trouve à chaque page. Il a été annoncé par les prophètes. Il était confirmé par les anges. Il était manifesté par le Saint-Esprit. Il a été présent au milieu de nous en chair. Voilà, ça c'est Noël. Il accomplit toutes les Écritures le concernant. Aucune parole de l'Écriture ne restera sans se réaliser. Sa naissance à Bethléem a été annoncée par les prophètes longtemps à l'avance. Les docteurs de la loi, lorsque les mages sont venus d'un pays lointain, et qu'ils ont posé la question à Hérode. Hérode, l'usurpateur, qui ne s'intéressait pas spécialement aux Écritures, plutôt à la politique, a appelé les docteurs en théologie, et ils ont fait un genre de colloque à Jérusalem, pour voir, pour connaître ce que disaient les Écritures concernant la venue du Messie, car il était attendu depuis longtemps. Mais c'était tellement loin déjà. Et beaucoup s'étaient endormis et ne savaient plus. Et alors ils ont ouvert les Écritures. Où doit-il naître le roi qui vient, le roi qui doit venir? Et par les Écritures, ils ont donné la juste réponse. Car il est parlé de lui dans les Écritures. Les docteurs de la loi ont répondu avec exactitude aux mages venus de l'Orient pour adorer le roi des Juifs qui devait naître. Tout Jérusalem est bouleversé à cette nouvelle. Cet événement est un événement de taille, car tous attendent depuis des générations et des générations le libérateur, le Messie qui doit venir. Évidemment, ils ne voyaient une libération que pour leur peuple, que pour leur race. Les libérer du joug politique, les libérer du joug des Romains et des dominateurs, les libérer, leur donner la suprématie, c'est ça qu'ils voyaient. Ils n'ont pas compris l'autre dimension. Bien sûr qu'il voulait libérer le peuple juif, mais bien plus que cela, le monde entier. Voilà ce qu'il voulait, libérer le monde entier. Et il s'était choisi un peuple pour se révéler à travers ce peuple. Pendant des siècles, Israël était le seul peuple qui croyait dans un Dieu unique. Tous les autres croyaient dans une multiplicité de dieux. Et c'est pour ça, à cause de la foi d'Abraham, ce peuple a reçu le Messie. Mais quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont su dire, oui, il doit naître à Bethléem. Parce que les prophètes en parlent. Mais, après ça, ils ont oublié. Les mages sont partis par un autre chemin dans leur pays. Et puis c'est un tout petit bébé. Alors, c'est pas du jour au lendemain où on va le voir se manifester. Il doit grandir d'abord, puisqu'il est homme. Vous voyez, 30 ans se sont écoulés et on l'a oublié. On a oublié le message donné par les mages. On a oublié ce que les mages ont apporté comme nouvelle. Et le bouleversement qu'ils ont connu à la nouvelle lorsque les mages sont venus a été depuis longtemps oublié. Ne sommes-nous pas la même chose? Dieu nous parle, nous sommes secoués, nous pleurons, et puis déjà demain ou après-demain, c'est oublié. C'est pas vrai? On a même oublié la prédication qu'on a entendue dimanche. On a oublié, on est pris dans les choses du monde, et puis ça passe comme cela. C'est comme si on n'avait jamais rien entendu. Oh, homme, s'il te plaît, réfléchis et sois plus sage. Et voilà, ce Messie annoncé, ce Messie venu, ce Messie attendu, ce Messie promis, on l'a ignoré. Il est venu. Il est venu. Il a parcouru les rues de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, de la Galilée. Il a guéri, il a sauvé, il a ressuscité. On l'a rejeté, on lui a craché dessus. On l'a calomnié. Il n'a rien dit, il n'a pas ouvert la bouche. On l'a pris. On l'a accusé injustement devant les païens. On a demandé qu'il soit crucifié. Et les païens l'ont crucifié. Et on a crié, « Descends de la croix, toi qui sauves les autres. Sauve-toi toi-même. » Voilà. Pourtant, c'était celui que les mages sont venus adorer. C'était celui, lorsque la nouvelle est venue à Jérusalem, qui a bouleversé Jérusalem à sa naissance. Mais les hommes ont oublié. Philippiens 2, 7 à 8 nous dit, « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà ce que nous dit Philippiens. Et voilà le but de sa venue. Le prophète Isaïe s'est écrié des centaines d'années à l'avance. Écoutez, dans Isaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, la semence de la femme. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Oui, ce bébé, c'est Dieu, venu en chair. Et encore, Esaïe, chapitre 9, verset 5, nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Des centaines d'années à l'avance. Une bonne nouvelle, le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Peux-tu te réjouir aujourd'hui pour sa venue? Peux-tu te réjouir véritablement pour Noël? Cet enfant de Bethléem est venu pour sauver l'humanité en premier lieu. Et ensuite, il est venu pour régner. Ésaïe 2, 3 à 4. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Vous voyez le cheminant? Il est venu, il reviendra. Sa première venue a été le sujet de contestation, de contradiction, de polémique. Et jusqu'à ce jour, pour beaucoup, il est sujet de polémique et de contestation. Sa deuxième venue sera sujet de joie, de bonheur, de délivrance, sujet de vie et d'allégresse pour ceux qui ont cru en lui. Enfin la réalisation de la promesse, enfin son règne éternel va s'établir sur la terre avec comme capitale à Jérusalem. Enfin nous régnerons avec lui. Fini les douleurs, fini les larmes, fini la souffrance. Fini la mort, fini le péché, fini l'éternité désormais. Le bonheur, sa deuxième venue, mais aussi pour les autres qui n'ont pas cru. Tristesse, malheur, condamnation, jugement et mort, parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils ne se sont pas repentis, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Comme nous dit Matthieu 25, il sépara les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite, et il mettra les boucs à sa gauche, et il dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. tandis qu'il ira aux autres qui sont à sa gauche. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. De quel côté serons-nous? Il ne s'agit pas là de religion ou de système religieux. Il ne s'agit pas là de catholicisme ou de protestantisme ou de quoi encore. Non! Qu'avez-vous fait avec Jésus? Avez-vous cru en lui? Il est venu pour ôter la malédiction, la peur, la mort. L'avez-vous accepté? Ce n'est pas le bébé de Bethléem que nous attendons maintenant, mais c'est le roi des rois et c'est le seigneur des seigneurs. Mais c'est aussi le juge des nations. Recherchons la lumière de la parole prophétique du livre où il est parlé de lui. La connaissance des choses à venir, de sa personne, sont révélées dans sa parole. Ne voyons pas seulement le petit bébé, ou ne voyons pas seulement le serviteur de l'Éternel, ou ne voyons pas seulement le supplice injuste infligé à un être parfait qui endure la pire des morts par amour pour une humanité perdue afin de la sauver. Mais voyons aussi notre vainqueur sur le péché. Notre vainqueur sur le diable et la mort. Voyons aussi le triomphateur qui est dans les cieux et qui reviendra bientôt et qui règnera éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Il est homme, mais il est Dieu aussi. Il est prêtre, mais il est prophète aussi. Il est roi, mais il est juge aussi. Il est le Messie tant attendu, qu'Israël attend jusqu'à maintenant, ne pensant pas qu'il est venu une première fois, et qu'il attend encore, et que nous attendons une deuxième fois, car la Bible nous en parle. Le livre où il est écrit de lui nous révèle toutes ces choses. On l'appellera Dieu puissant, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le mystère de Jésus peut se résumer ainsi. À Bethléem, il est celui qui a été annoncé dans tout l'Ancien Testament. Celui dont il est écrit dans le psaume 40, verset 8, « Voici, je viens ». Celui dont Ésaïe a dit, chapitre 11, verset 1, « Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Celui qui est né d'une femme, la semence de la femme, la réalisation de la promesse de la Genèse à nos premiers parents. Voilà ce qu'il est. À Golgotha, il est celui qui, en agonie, chargé des péchés du monde entier, abandonné de tous, qui s'est écrié, « Tout est accompli, tout. » Il est celui duquel il est dit dans Apocalypse 1:7, « Voici, il vient sur les nuées. » Et dans Zacharie 14, 4 à 5, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Il est celui qui règnera et dont le règne n'aura pas de fin. Comme disait l'ange à Marie, et Daniel, le prophète de l'Ancien Testament, le vit dans une vision merveilleuse et il écrivit ceci. Et voici que, dans Daniel 7, 13, et voici que, sur les nuées du ciel, arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas et sa royauté ne sera pas détruite. Et l'Apocalypse nous dit, c'est fait. Bientôt nous entendrons ces paroles. Nous arrivons au temps de la fin. Le temps est court maintenant, mes frères. Combien de messages de Noël aurons-nous à prêcher? Noël nous rappelle le plan merveilleux de Dieu, la réalité de ce que Dieu a préparé pour chacun. Et bientôt ces paroles seront criées dans l'espace. C'est fait! Le plan de Dieu est arrivé à son accomplissement. Son règne est établi aujourd'hui. Comme disait l'ange, il règnera éternellement. L'enfant de Bethléem n'a pas été le scandale, n'a été le scandale de la croix qu'une seule fois dans le temps. Mais il sera le roi éternel et son règne n'aura pas de fin. Adorons-le et préparons-nous à régner avec lui. Seigneur, devant ta majesté, nous nous courbons. Devant la réalité de Noël, nous nous effaçons. Seigneur Jésus, nous comprenons bien plus que les prophètes de l'Ancien Testament.